Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Religio. Je m'appelle Loïc Bizol et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Il sera consacré aux enjeux de la droite chrétienne et son influence aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Bonne écoute. La droite chrétienne fait trembler le monde politique depuis plusieurs années désormais aux États-Unis, notamment lors des récentes élections américaines de 2016 et de 2020. Alors que les prochaines élections américaines approchent à grands pas, Trump et son camp comptent à nouveau sur le soutien massif de cette coalition aux visées politiques bien définies, principalement constituée d'évangéliques et d'intégristes catholiques et protestants blancs. Cette coalition s'associe parfois à des mormons et aussi à certains groupes juifs conservateurs. Mais au-delà de leur soutien à Trump, quelle est réellement l'influence de cette coalition? Quel est son projet politique? Quelles pourraient être ses répercussions à l'échelle mondiale, notamment au Canada? Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille deux invités. Il s'agit d'André Gagné, professeur titulaire au département d'études théologiques de l'Université Concordia, ainsi que de Philippe Gonzalez, maître d'enseignement et de recherche en sociologie de la communication et de la culture à l'Université de Lausanne. Bonjour à tous les deux et merci de répondre à mes questions aujourd'hui.
Bonjour, merci Loïc.
Merci, bonjour.
Alors peut-être une première question pour vous deux, pour entamer puis mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Quand on parle de droite chrétienne, ça fait un nom assez général. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette droite chrétienne, puis quels seraient les éléments qui pourraient la fédérer? On parle même des fois de coalition, je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme.
Alors concernant la droite chrétienne, évidemment il y aura plusieurs exceptions. Moi, je suis en Europe, des partis de droite chrétien, c'est relativement classique. En Suisse, par exemple, on a le Parti démocrate chrétien, qui est de centre-droite. C'est un parti qui, historiquement, en fait, provient du catholicisme et qui, progressivement, avec les années, s'est dirigé vers le centre. Dans le cas des États-Unis ou d'autres pays latino-américains, par exemple le Brésil, on pense à une alliance quand même entre un récit national et puis le christianisme. Un récit national qui ferait de la nation, une nation qui a un rôle providentiel par rapport à un projet, on va dire, théologique. C'est l'idée, en fait, de la cité sur la montagne, dans le cas du récit américain. Et puis, c'est cette idée d'une providence qui guide l'histoire américaine et qui fait des protestants, et en particulier des protestants évangéliques, les véritables détenteurs de la citoyenneté, à l'exclusion, en fait, des autres catégories de la population. Et donc, avec ces droites chrétiennes, ce qu'on a, c'est une très forte revendication identitaire sur certaines valeurs, des valeurs qui sont notamment familiales, on y reviendra, morales, évidemment, un certain patriotisme. Et puis, on parle de droite chrétienne, surtout à partir de la fin des années 70 ou 70 et début des années 80. Mais on peut dire que c'est aussi une forme de continuité avec une mobilisation lors de la guerre froide contre le communisme et la manière dont, dans le combat idéologique, le christianisme a été récupéré par certains groupes religieux et certains partis politiques pour jouer le rôle de forteresse civilisationnelle. Voilà, c'est ce que j'en dirais au premier abord. Mais André a plein de choses à dire.
Ah, c'est difficile de compléter ce tour d'horizon, déjà très complet. Comme vous savez, certains d'entre vous, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la droite chrétienne américaine parce que c'est ce qu'on entend parler le plus souvent ces jours-ci, surtout avec depuis Trump et même avant. Et comme Philippe disait très, très bien, dans le contexte américain, la droite chrétienne a été vraiment mise sur la carte, on pourrait dire, à la fin des années 70, avec la montée de la majorité morale, the moral majority. Mais la droite chrétienne, comme on la comprend aux États-Unis, du moins, c'est vraiment avant tout un effort qui était une espèce de repoussoir à la question de l'avortement, mais à travers les catholiques. C'est vraiment une initiative d'abord, lorsqu'on comprend la droite chrétienne dans un contexte là, de la seconde moitié du 20e siècle, vraiment à partir du catholicisme, sa réaction à Roe versus Wade. Et ensuite, on a vu les évangéliques se joindre à ce qui est devenu une coalition, en fait. Une coalition qui, aujourd'hui, lorsqu'on parle de droite chrétienne, on pense Surtout aux États-Unis, on pense davantage aux évangéliques très conservateurs, mais on a aussi dans la droite chrétienne des catholiques traditionnalistes. On a aussi des protestants qui sont aussi assez traditionnalistes. Et c'est vraiment une coalition qui se fédère autour de valeurs socio-conservatrices. Par exemple, c'est sûr, les questions d'avortement, c'est quelque chose qui est là, mais il y a eu d'autres choses avant ça. Il y a eu la question de la prière à l'école, les questions autour du fait qu'on ne pouvait plus lire la Bible dans les écoles, questions autour des droits des personnes LGBTQ+, questions d'euthanasie également. Et toute la notion de ce qu'on appelle souvent aux États-Unis la notion de liberté religieuse. Comment eux conçoivent justement cette idée-là que c'est important de préserver le christianisme comme étant la religion prédominante aux États-Unis. Et ça a beaucoup un lien avec ce que Philippe disait par rapport à un récit national qui est finalement un récit construit hein, à partir des idées qui émanent de la venue des puritains. Hein. Ça, on sait ça, cette idée de City on a Hill, hein, cette ville sur la montagne, hein, qui est une référence biblique du chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Et à partir de cette notion-là, qui finalement, lorsqu'on pense à cette idée-là d'un récit national, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'à l'époque, on parle de 13 colonies, et on parle d'un récit qui appartient à une de ces colonies-là. Et on en fait un récit national. Hein. C'est essentiellement cela. Mais c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de droite chrétienne, c'est un peu ça. Si on parle de droite chrétienne, bon, Philippe parlait de son contexte en Europe. On a une droite chrétienne jusqu'à un certain point aussi au Canada. Mais le poids démographique des chrétiens, surtout des chrétiens évangéliques qui sont assez actifs ou qui tentent d'être assez actifs sur le plan politique, mais est incomparable avec ce qu'on retrouve aux États-Unis. Mais il y a certes une droite, une forme de droite chrétienne au Canada également, et c'est encore une fois une droite chrétienne qui se calque beaucoup sur les mêmes préoccupations qu'on retrouve chez nos voisins du Sud.
Il y a un moment qui me par... un élément pardon, qui me paraît important pour compléter ce tour d'horizon de la droite chrétienne, c'est qui la compose. Et une erreur que je vois souvent en Europe, dans le traitement médiatique, c'est que les journalistes ont tendance à parler des églises évangéliques. Et je pense que là, il y a un raccourci. C'est pas parce que vous avez une faction qui se revendique de la religion que vous avez nécessairement des églises. Et ça nous en dit long, en fait, sur la manière dont s'organise notamment l'évangélisme, mais pas seulement. Parce que l'évangélisme, en fait, contrairement au catholicisme, c'est une forme, on va dire, très décentralisée de protestantisme. Déjà, le protestantisme n'a pas véritablement de centre, mais si vous voulez, la logique, on va dire, du marché de la religion est poussée dans sa logique, dans le monde évangélique, est poussée véritablement jusqu'à sa limite. Ce qui veut dire que vous avez un rôle, vous avez des organes qu'on appelle para-ecclésiaux qui jouent un rôle très important. Para-ecclésial, ça veut dire à côté des églises. Et donc, généralement, ces organismes para-ecclésiaux fonctionnent comme des entreprises religieuses en nom propre. Je vais vous donner deux exemples, en fait, hein, qui sont importants pour l'élément qu'on aborde. Vous avez Campus Crusade, connu en français sous le nom de Campus pour Christ en Suisse. En France, c'est Agapé. Je ne sais pas comment on dit au Canada. Son fondateur, au début des années 50, c'est un homme d'affaires qui s'appelle Bill Bright, qui est en Californie. Et Bill Bright va jouer un rôle très très important dans l'avènement de la droite chrétienne. Ça va être une cheville ouvrière de cette jonction entre la sphère en fait religieuse et la sphère politique. Et vous voyez qu'en fait, c'est un entrepreneur qui a une entreprise d'évangélisation qui, dont le ministère, vise à convertir des stars du monde médiatique, du monde du sport, du monde de l'audiovisuel, et qui est présent sur les campus universitaires avec une guerre culturelle très forte, en particulier dans les années 60, contre la contre-culture précisément hippie, pacifiste sur les campus. Donc, vous avez Bill Bright d'un côté, et puis il y a une autre organisation qui s'appelle Youth for the Mission, Jeunesse en mission en français, avec Lauren Cunningham. Et là, on est plutôt sur un versant, on va dire, charismatique. Et c'est intéressant parce que Bill Bright, Lauren Cunningham sont deux des pères qui sont revendiqués par les sept montagnes, on va dire la théorie des sept montagnes, qui est une théorie dominionniste. On va aborder ça bientôt, mais parce que c'est important. Et on a une troisième figure qui s'appelle Francis Schaeffer, qui est un théologien qui est vu comme le grand intellectuel des années 70-80, et qui aujourd'hui encore est une figure d'autorité, quand même il est décédé d'un cancer au début des années 80. Mais c'était quelqu'un qui avait été ensuite proche de Reagan, qui a été le théoricien, si vous voulez, du fait que les évangéliques ont embrassé l'avortement comme une cause politique. Donc c'est Francis Schaeffer qui a, au travers notamment de documentaires qu'il a tourné avec son fils Frankie Schaeffer, qui a fait la diffusion, la promotion de ses idées et qui a été en fait, alors on entend beaucoup parler de Jerry Falwell qui a lancé la majorité morale, mais c'est lui qui a véritablement développé l'idéologie qui a permis en fait cette jonction avec le Parti républicain, qui est devenue une symbiose et qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense évangélique aux États-Unis, on pense automatiquement républicain. Donc, rôle important de ce qu'on appelle les organisations ou para-ecclésiales, parce que toutes ces figures dont je vous parle vont, en particulier en fait, je pense à Bill Bright ici, mais vont donner lieu en fait ensuite à des think tanks, lieux où des intellectuels conservateurs qui vont être en particulier basés en fait à Washington vont continuer à travailler cette articulation entre le religieux et le politique, et ça peut se faire à l'encontre en fait des régulations ecclésiales, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des grands corps d'église, que ce soit les baptistes, que ce soit les assemblées de Dieu, qui ont un rapport en fait en tant qu'église, il faut bien l'entendre, en tant que théologien, en tant qu'administrateur de ces grands corps ecclésiaux, qui est beaucoup plus réticent à l'endroit d'un engagement politique. Ça peut être des corps d'église qui sont conservateurs, mais la cooptation, les liens, ne se passent pas au niveau des églises, ils se passent dans ces organismes para-ecclésiaux. J'en donne un dernier, extrêmement important, c'est Franklin Graham, pardon, le fils de Billy Graham, le célèbre prédicateur, qui est un soutien indéfectible de Trump et qui était à la tête de la Billy Graham Evangelistic Association, qui est l'association fondée par Billy Graham pour lancer ses campagnes d'évangélisation. Voilà.
C'est tellement important. Oui, juste rajouter une petite affaire pour nous amener dans le monde présent, parce que c'est exactement ce que Philippe dit par rapport à, ce n'est pas la question d'église comme telle, mais vraiment d'entrepreneurs chrétiens qui ont plus d'influence que les pasteurs d'église. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, le même phénomène avec des individus tels que Lance Wallnau, qui est un entrepreneur chrétien à la base, hein, qui a été pasteur, qui ça n'a pas fonctionné pour lui, il s'est lancé en entrepreneuriat, et là maintenant, a sa propre émission, ses propres plateformes, et il est plus influent que les pasteurs des églises aux États-Unis pour motiver les gens à aller voter en faveur de Trump, puis émet continuellement ses opinions politiques sur ses plateformes. Vous avez un autre grand entrepreneur qui est impliqué dans toutes sortes d'initiatives. Son nom, c'est Stephen Strang, qui est un magna de la, je dirais, du monde médiatique charismatique, qui finalement subventionne toutes sortes d'initiatives, dont un grand, grand ralliement qui fait le tour des États-Unis en ce moment, The Reawaken America Tour, et qui finalement, à travers ces ralliements-là, on voit toutes sortes de figures, autant des figures évangéliques que des figures qui s'adonnent au complotisme, partager la scène en vue de résister à ce qu'on appelle l'État profond et faire advenir un deuxième mandat pour Trump. Ça veut dire qu'on est encore dans le même genre de travail, mais là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui ont pris l'avant-scène sont des charismatiques, hein, dans le contexte de Trump encore davantage, on les voit. Et le fait qu'on a l'avènement des médias sociaux, tout ça est amplifié davantage. Et ça rejoint beaucoup ce que Philippe dit, hein, parce que ce que Philippe dit, ces gens-là étaient les pionniers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de leur travail de fondation pionnière au sens d'entrepreneuriat, en vue de pousser un espèce de message politisé en fonction de ramener l'Amérique à Dieu.
Merci à tous les deux là, pour ce tour d'horizon bien complet. Ça nous donne beaucoup d'éléments là, pour la suite de la discussion. Je trouvais intéressant quand même, avant qu'on entre plus en profondeur dans le contexte américain puis canadien. Philippe, vous disiez tantôt donc que en Europe aussi, hein, les organisations para-ecclésiales ont quand même une certaine influence. Jusqu'à quel point finalement ces organisations-là, évangéliques, mais pas que, comparées au contexte nord-américain, jusqu'à quel point ces organisations commencent à avoir de l'influence? Est-ce que justement c'est des organisations depuis le contexte nord-américain qui ont cette influence sur le continent européen ou au contraire, il y a aussi des organisations en Europe qui sont un peu indépendante, on va dire aussi, là, de ce contexte nord-américain.
C'est une excellente question, Loïc. Ce que je pourrais dire, c'est que avec l'évangélisme, on a affaire très clairement à un mouvement social mondialisé, courant religieux mondialisé, et on a une forte circulation des contenus, des personnes, des formes rituelles aussi. Je pense en particulier au répertoire de chant. Mais très simplement, j'étais à Dallas il y a un peu moins de 2 semaines là pour faire une enquête sur le terrain. Et je me suis rendu à la First Baptist Church du pasteur Robert Jeffress, qu'on voit souvent sur Fox News. Et puis, la forme du culte, donc un culte, alors là, il y avait un chœur, mais il y avait un orchestre avec de la musique, on va dire, pop-rock. La forme du culte ressemble exactement à ce que je peux, moi, trouver ici en Suisse un dimanche matin, évidemment dans une mesure beaucoup plus modeste. Donc on a une circulation des formes, et puis une grande partie, en fait, des contenus théologiques sont des contenus qui sont disponibles en français, ici, sont traduits de l'anglais. Donc on a quand même un marché américain qui est capable, en fait, de diffuser. Et puis avec cette diffusion, vous avez un certain nombre d'idées qui circulent, qui ensuite sont réacclimatées. Je pense que par exemple le cas suisse est différent du cas français. Mais pour donner un exemple très simple, c'est qu'en Suisse, avec notre système de démocratie directe, on a une micro-formation en fait évangélique conservatrice qui s'appelle l'Union démocratique fédérale, qui est capable de soumettre au vote populaire ce qu'on appelle une initiative, hein, dans d'autres pays on parle de référendum. Et qui a été, par exemple, capable de faire voter l'interdiction d'ériger des minarets en Suisse, ça c'était en 2009, l'interdiction de se voiler, de se masquer le visage, mais ça visait les femmes qui portaient en fait un voile devant le visage, hein, pas sur la tête, mais on a voté sur cette interdiction il y a maintenant à peu près 4 ans. Et puis récemment, ils ont soumis un référendum visant à ne pas pénaliser les discriminations à l'encontre des personnes LGBTQ+, et ça a été refusé par le peuple. Donc ce qu'on a, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une micro-formation qui par ailleurs dans son programme se dit clairement créationniste, mais dans un sens dur, hein, qui est clairement pro-israélienne dans un sens messianique, ça fait partie des politiques qu'ils essaient d'avoir. Ils ont un seul siège au Parlement, qui en compte 200, un seul siège, mais le système démocratique fait que cette petite formation, qu'il faut distinguer des églises, est capable en fait d'importer des thématiques des guerres culturelles américaines dans l'espace politique et public suisse, avec des effets qui sont différents, mais quand même des effets qui portent à conséquence, notamment lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les droits des populations musulmanes en Suisse.
Vous avez évoqué tous les deux tantôt le dominionnisme, c'est ce fameux mot qu'on entend quand même assez régulièrement dès qu'il s'agit de parler de la droite chrétienne. Est-ce que vous pourriez revenir succinctement sur ce qu'on entend par dominionnisme? Comment est-ce que cette théologie saurait mieux que moi la définir, vient influencer puis être au cœur finalement du discours de la droite chrétienne, de cette coalition de droite chrétienne aux États-Unis notamment?
Bon, mais dominionnisme, hein? Oui, c'est on appelle c'est un terme qu'on a un peu inventé. Dominionnisme, en fait, c'est le terme qu'on utilise souvent en anglais, c'est dominion theology, la théologie du dominion, hein? Mais on utilise beaucoup dans les médias dominionnisme, même chez certains chercheurs, moi aussi, Philippe, nous avons emprunter ce terme. Si on peut en donner une définition en premier, je crois que c'est la bonne chose. Je me fie beaucoup parce que je trouve que la définition est très bien. Un collègue, un journaliste de recherche du nom de Frederick Clarkson, qui travaille pour la Political Research Associate aux États-Unis et qui est un journaliste qui travaille autour des questions de la droite chrétienne aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Avec d'autres collègues, Chip Burlett et Rachel Kabachnik, ils sont arrivés à une définition qui finalement est assez claire. Le dominionnisme est une idée théocratique. Qui prône le fait que les chrétiens doivent exercer leur autorité ou leur domination sur chaque aspect de la société en prenant contrôle des institutions politiques, culturelles et sociales d'un pays. Moi, dans mon bouquin, et Philippe a parlé aussi dans son bouquin de dominionnisme, mais c'est ça, pour moi, le dominionnisme est essentiellement leur théologie politique. C'est une théologie politique, du pouvoir politique. Et c'est essentiellement, dans la manière dont on comprend cette idée-là aujourd'hui, souvent on la rattache à un penseur des années 60-70, du nom de Rouzas J. Rushdoony, qui est le fondateur d'une mouvance qu'on appelle Christian Reconstructionism, ou le reconstructionnisme chrétien. Et Rushdoony, qui était un pasteur presbytérien pendant quelques années, est devenu une espèce d'intellectuel et qui a beaucoup écrit autour de préoccupations sociales au sein de la population américaine. Et finalement, pour lui, il a hérité un peu de la pensée d'Abraham Kuyper, qui était le premier ministre néerlandais au début des années, en fait autour des années, si ma mémoire ne fait pas faillir, là, autour des années 1920, je crois. Kuyper avait cette idée de souveraineté, ou ce qu'on appelle en anglais « sphere sovereignty », où le Christ doit exercer sa souveraineté dans certaines sphères de la vie. Ça peut être la société. En fait, pour lui, il y avait l'idée de la famille, l'Église et la société civile. Et Rushdoony reprend ces idées-là et les popularise, en fait, dans les années... fin des années 60, début des années 70. Il écrit une série de bouquins, The Institute for Christian Law, quelque chose comme ça. Biblical Law. Merci, Philippe. Institute for Biblical Law. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est ce qui est intéressant, c'est que Rushdoony a une perspective assez, je dirais, radical sur l'application de la loi biblique. Pour lui, par exemple, la loi biblique de l'Ancien Testament, par exemple, si quelqu'un s'adonnait à l'adultère dans l'Ancien Testament, il y avait une forme de pénalité, hein, une espèce de punition divine qui était la mort. Hein. Et pour Rushdoony, il fallait appliquer la loi de l'Ancien Testament comme elle est énumérée. La seule loi qui ne devait pas être appliquée, ce sont les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Mais toutes les autres lois morales, la responsabilité du chrétien, c'était de les vivre dans leur plénitude. Et ça, c'était assez difficile pour certains chrétiens. Ils se disaient, bon, c'est peut-être exagéré d'aller aussi loin que ça. Et à un moment donné, au milieu des années 70, on a adopté une forme de dominionnisme qui s'est éloignée un peu de cette forme du reconstructionnisme chrétien, qui est devenu un dominionnisme que j'appelle de type charismatique. Le dominionnisme de Rushdoony est un dominionnisme qui est beaucoup à long terme, où on met l'accent, par exemple, sur la formation des jeunes. Hein? On met l'accent sur l'éducation à la maison, par exemple, parce qu'on ne fait pas confiance au système public. On est dans l'idée qu'on est en train, dans le système public d'éducation, on endoctrine nos enfants. Il faut les retirer des écoles. Et il y a une mouvance vers ça dans les années 70, hein, où on retire, beaucoup de chrétiens aux États-Unis retirent leurs enfants des écoles pour s'adonner à un enseignement à la maison. Et on va, à partir d'une formation à la maison, construire une nouvelle génération de chrétiens, hein, de jeunes hommes, de jeunes filles qui vont grandir dans les voies du Seigneur pour ensuite pénétrer la société et la transformer. Mais c'est un programme qui est vraiment à long terme. Et tandis que du côté des charismatiques, on est séduit par l'idée de cette théologie politique du dominionnisme, mais on est beaucoup plus pressé. Et pour nous, il y a une autre manière de s'adonner à cela, et c'est finalement à travers une mouvance qu'on appelle les sept montagnes de la culture ou les sept sphères de la culture, qui en fait est une stratégie de mobilisation politique. Hein. C'est beaucoup plus une stratégie de marketing. Si on parle de dominionnisme comme théologie politique, hein, c'est vraiment c'est une belle idée, hein, c'est une belle théologie, mais comment est-ce qu'on applique ou comment on réalise cette théologie politique? Il faut mobiliser les chrétiens. Et on advient avec, bien sûr, ce que Philippe a parlé de Bill Bright, Lauren Cunningham, qui ont un peu mis de l'avant cette idée-là de sept sphères qui représentent des aspects de la société, comme la religion, la politique, l'éducation, les médias, les arts et spectacles, la famille et l'économie. Et il faut prendre d'assaut, d'un certain sens, ces sphères, ces montagnes. Il faut gravir les sommets de ces montagnes pour être en mesure d'influencer le reste de la culture. Et c'est un effort qui est un peu à l'inverse, hein, de ce qu'on retrouve chez les reconstructionnistes, qui est beaucoup plus, on dirait en anglais, bottom-up, ou hein, du bas vers le haut chez les reconstructionnistes. Et chez les charismatiques dominionnistes, on a plutôt du haut vers le bas. Hein? Ça veut dire qu'il faut prendre contrôle des sphères de la culture. Ça veut dire faire cette distinction, hein, théologie politique et stratégie, je dirais, de marketing, qui a été remise de l'avant par Lance Wallnau, qui est maintenant, je dirais, le marketeur en chef de cette stratégie de mobilisation politique.
J'ajouterais deux éléments à ce que vient de dire, c'est extrêmement complet, hein, ce qu'a avancé André. Il y a deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est que quelqu'un comme Lance Wallnau va vous dire que les sept montagnes, c'est un schéma d'occupation et d'hégémonie de la société en situation de minorité, quand les chrétiens sont devenus minoritaires dans la société. Donc c'est vrai, si on regarde les statistiques religieuses en fait, notamment le Pew Religion and Public Life Survey, là j'ai les chiffres sous les yeux de 2022, on voit qu'en fait, les évangéliques blancs aux États-Unis sont passés de 23% en 2006 à peine 13,6% en 2022. En fait, ils sont au même niveau que les protestants classiques, ce qu'on appelle les white mainline, et ils sont légèrement au-dessus hein, d'un point par rapport aux catholiques blancs. Évidemment, comme dans la plupart des pays occidentaux, la grande augmentation en fait dans le paysage religieux, c'est les sans confession, les non-affiliés, qui aux États-Unis aujourd'hui sont à peu près à 27% environ. Bon, donc on a un déclin, et ce déclin en fait, il correspond, il résonne, on va dire, avec la base évangélique républicaine, qui a l'impression qu'elle est en train de perdre en fait ce qui caractérise sa définition des États-Unis, c'est-à-dire une Amérique blanche, protestante, dont elle serait la détentrice. Et on va vers une société qui est beaucoup, beaucoup plus multiculturelle. Et là, il y a tout un enjeu. Pour rappel, hein, Trump n'a jamais gagné à l'élection présidentielle la majorité des votes. Face à Hillary Clinton, il avait perdu en termes de vote populaire. Il a gagné en termes de grands électeurs. Et c'est pas pour rien qu'on a l'une des institutions les moins démocratiques dans le fonctionnement de la démocratie américaine, qui est la Cour suprême, qui était le lieu qui a été investi précisément par des juges très conservateurs nommés par Trump. Trois juges quand même, c'est pas rien, c'est énorme. Trois juges, donc deux catholiques et l'un anglican conservateur, qui ont été élus pour mettre en place un programme qui, si il fallait voter ce programme de démantèlement des droits reproductifs, bah, évidemment, il ne serait pas voté par le peuple américain, aux antipodes. Donc on a, en fait, on a une crispation antidémocratique qui est alignée avec le projet des sept montagnes. Le projet des sept montagnes est profondément antidémocratique. Il consiste à dire une petite élite bien organisée peut influencer de manière durable la culture d'un pays au travers de ses institutions. Et l'exemple que prenait Wolno au cours des années 2000 pour motiver les troupes, il disait, regardez, il n'y a que 3 ou 4% de personnes LGBT dans la société. Elles sont capables, en fait, de nous imposer à Hollywood ce type de production culturelle. Nous sommes 30% de chrétiens, ce qui est faux, hein. Aujourd'hui, on voit bien que le taux de chrétiens évangéliques est beaucoup plus bas, mais nous sommes 30% de chrétiens et nous ne sommes pas capables de faire cela. En gros, nous sommes la majorité dominée. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience et on est véritablement face à une guerre culturelle. Guerre culturelle dans le sens où c'est un groupe social qui essaye d'imposer ses valeurs par un rapport de force antidémocratique au reste de la société.
Et ce qui est important, vraiment, Philippe, ce que tu dis, l'aspect d'influence. On utilise beaucoup le langage d'influence, mais ce n'est pas un problème, un langage d'influence, si on en reste à l'influence. Mais le problème, c'est quand ça devient
Absolument.
c'est quand ça devient hégémonique.
Oui,
Et
c'est ça.
c'est beaucoup plus ça. Et il y a toute une opération, et tu te souviens bien, Philippe, autour de 2011, lors d'une espèce de discussion avec Oz Hillman et Johnny Enlow, comment il y avait cette discussion de relations publiques, comment on parle du dominionnisme hein, face
Absolument.
aux gens qui, finalement, adhèrent pas à nos valeurs, hein, ou face aux journalistes ou aux médias. Est-ce qu'on parle de dominionnisme? Ou est-ce que c'est un langage pour les insiders? Hein? Il faut savoir adapter notre langage parce que les gens comprendront pas. Et finalement, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre un peu plus et réalisent les implications antidémocratiques de ce genre de projet de théologie politique.
Je crois que c'est un point très important et j'aimerais juste ajouter un élément à ce que tu viens de dire parce que c'est central. Lors de la campagne McCain contre Obama pour la présidence, il y avait cette vice-présidente qui avait été pressentie du côté républicain qui était Sarah Palin. Et il y a eu toute une sorte on va dire de couverture médiatique très sensationnaliste autour du fait qu'elle s'était faite, entre guillemets, exorciser ou protégée contre la sorcellerie par un pasteur du Nigeria. Bon. Sarah Palin était la candidate en fait qui avait été élue par les choisie sur le ticket McCain par les tenants de la droite chrétienne parce que McCain n'était pas vu comme donnant suffisamment de garanties. Et en fait, la couverture médiatique de cet exorcisme entre guillemets exorcisme de Palin avait été dans la plupart des quotidiens nationaux aux États-Unis, mais aussi en fait de manière internationale, moi je me souviens des titres dans Libération et dans Le Monde en France, avait été traité sur le mode de regarder, c'est une bigote. Alors que déjà à l'époque, certains des spécialistes dont parlait André tout à l'heure, Fred Clarkson, Rachel Tabaknek, avaient alerté. Ils suivaient le dossier et ils disaient, non mais regardez, c'est des théocrates en réalité. Le projet, juste avant d'exorciser en fait Sarah Palin, le pasteur qui s'appelait Thomas Smoothie avait énoncé le projet des sept montagnes. Il a fait un long message là-dessus et puis ensuite il a imposé les mains à Sarah Palin pour qu'elle devienne gouverneure de l'Alaska. Aujourd'hui, les médias ont enfin compris avec Trump, avec l'aide de ces journalistes ou de ces spécialistes en fait de la droite chrétienne et avec l'aide de gens comme André qui ont été capables en fait à la fois de mener des enquêtes solides et simultanément de parler à des journalistes pour les sensibiliser à la pertinence des catégories théologiques pour comprendre ce qui se passe dans la politique américaine aujourd'hui et certains mouvements autour du Parti républicain. Et donc ça oblige en fait des gens comme Warnock qui à l'époque pouvaient s'exprimer clairement sur les réseaux sociaux, dire ce qu'ils pensaient dans leurs vidéos en pensant ne pas être écoutés en fait par la presse. Aujourd'hui, ça les oblige à des stratégies de dissimulation beaucoup plus rapides. Donc à l'époque, il a fallu quelques années avant qu'ils disent non mais en réalité nous ne sommes pas de millionnistes. Et aujourd'hui c'est plutôt l'effet inverse. Ils sont taxés d'être des chrétiens nationalistes et ils disent ben oui, en fait nous le sommes. On l'est et c'est pas une insulte. Chrétien nationaliste, qui est l'étiquette aujourd'hui en fait forgée par quelques académiciens et puis quelques activistes d'une gauche chrétienne pour le coup, pour désigner ce que avec André nous désignons et puis à la suite de Talk to Action aussi hein, cette instance de veille on désigne depuis le milieu des années 2000 comme du dominionnisme.
C'est très intéressant, là, les statistiques, vous avez évoqué tous les deux, le fait que finalement, dans la population américaine aujourd'hui, l'influence numérique des évangéliques serait en baisse. Pourtant, là, à vous écouter, on voit que malgré tout, les évangéliques continuent à avoir une certaine influence politique. Puis on l'avait vu évidemment avec l'élection de Trump en 2016, puis ensuite le soutien massif que les évangéliques blancs ont continué à apporter en 2020 à Trump. Là, de mémoire, je crois que c'était autour de 84-85% non, d'évangéliques blancs qui avaient soutenu Trump aux dernières élections. J'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de bloc autour de cette candidature-là, que finalement, il y a quand même cette majorité écrasante là d'évangéliques qui votent pour un même candidat. Que finalement, c'est ça aujourd'hui encore là la réalité de l'électorat du groupe évangélique aux États-Unis. Est-ce que le comportement électoral finalement aux prochaines élections là de 2024 vont il y a de très fortes chances que ce soit toujours le cas. Puis à quel point aussi cette figure de Trump, évidemment, bon ça on vous a sûrement déjà interpellé là-dessus, là, sur ce paradoxe en tout cas, surtout en 2016, de voir que des groupes évangéliques puissent soutenir un candidat comme Trump, avec évidemment tous les déboires judiciaires qu'on lui connaît, puis sa personnalité très excessive, on pourrait vraiment penser que c'est pas du tout l'idéal que pourrait défendre ces regroupements-là.
Ben, c'est certain que, comme Philippe disait, ce n'est pas une question d'église, c'est une question d'influenceurs. Ces gens dont on a nommé, par exemple, Stephen Strang, Lance Warnow, d'autres figures de type prophétique, Kenneth Copeland avec tout son réseau médiatique. Où il y a des ralliements également qui se promènent. On a des gens comme Dutch Sheets et d'autres qui font partie de grands ralliements, de grands rassemblements de chrétiens qui vont au-delà de questions d'église, là. Il va y avoir le même soutien. Hier, justement, bon, on enregistre cette édition le 23, mais le 22 hier, Trump a parlé. A donné un discours à la National Religious Broadcasting, National Religious Broadcasters Association. Et il y avait des centaines de pasteurs et d'évangéliques et de journalistes chrétiens là, qui le soutenaient. avec des casquettes Make America Pray Again. Et que Trump s'est juré de défendre contre la gauche le fait que la gauche voulait retirer la croix du Christ des églises et remplacer ça par un drapeau de justice sociale et fait des parallèles avec le communisme et ainsi de suite et a rappelé à tous comment il avait défendu le bilan des évangéliques et comment il avait justement rencontré ses obligations envers les évangéliques avec la nomination de juge à la Cour suprême, le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qu'il allait encore davantage se battre pour leur liberté religieuse, hein, et que les chrétiens étaient persécutés, que la gauche se moquait des chrétiens. Il galvanise par ses discours, hein, cette droite religieuse qui le soutient et qui va continuer à le soutenir, hein, même si on est dans des, bien sûr, on est dans des chiffres assez bas pour les évangéliques blancs. Mais encore une fois, quand on parle de ces idées théologiques, il faut aussi se dire que ça déborde le cadre d'évangélique blanc au terme racial blanc. Parce qu'il y a quand même des évangéliques hispanophones, hein,
Absolument.
qui s'adonnent à ce genre de théologie du dominion, hein, ces idées de cette montagne et ainsi de suite. Lorsqu'on parle d'évangélisme blanc aux États-Unis, on parle aussi de ce que Philippe disait, d'un récit de l'Amérique blanche, hein, et qu'il y aura des groupes d'évangéliques racisés qui vont adopter ce récit de l'Amérique blanche. C'est ça aussi l'évangélisme blanc. C'est pas strictement une question de couleur de peau, là, ici. On va au-delà de ça, mais définitivement que le soutien va être là. Il y a eu un moment où, avant, je dirais, la course à la candidature républicaine, il y a eu un moment où certains évangéliques se sont prononcés en disant qu'ils n'allaient pas nécessairement soutenir Trump. Et là, Trump avait réagi en disant c'est un manque de fidélité, c'est une forme de traîtrise, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour les soutenir et on se tourne contre moi. Et il y a eu des évangéliques qui se sont carrément dissocié de Trump. Hein? Dans l'Iowa, par exemple, hein, le vote a été quand même bas. Il y a eu quand même un vote évangélique. Il a gagné le pari pour la candidature républicaine, mais ça a été beaucoup plus faible parce qu'il y avait un entrepreneur chrétien en Iowa qui avait décidé de soutenir DeSantis et pas Trump. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est là, c'est important de comprendre quand on parle d'évangélique, c'est beaucoup plus que les églises. C'est beaucoup des influenceurs, c'est des acteurs qui ont une influence profonde sur des chrétiens qui, finalement, vont chercher leur information un peu partout et pas seulement auprès de leur propre pasteur.
Très rapidement, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble important. C'est que cette théorie des sept montagnes, un de ses effets concrets, c'est de transformer, on va dire, l'affrontement électoral en un combat cosmique contre les forces du mal. Et en fait, Biden n'est pas vu comme simplement quelqu'un qui a des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, il est vu comme quelqu'un qui porte des idées sataniques. C'est-à-dire que s'en prendre à des bébés, c'est le travail du démon. Là, je parle évidemment en fait de la manière dont est conçu l'avortement. L'une des forces de la majorité morale, c'est que la majorité morale, ça remonte quand même à la fin des années 70. On a presque 50 ans. On a plusieurs générations de droite chrétienne. L'histoire, c'est quoi? L'idée, c'est profondément sédimentée que ce qui définit un bon candidat, c'est d'abord sa position à l'égard de l'avortement. Premier élément. Et là-dessus, ça veut dire que Biden ou que les démocrates partent perdants. Ça, c'était la première opération. Et puis, un autre élément, c'est que quand bien même Trump, on reconnaît qu'il a des défauts du côté évangélique, c'est un combattant Et si, en fait, il faut se définir, là, j'étais dans un séminaire très conservateur à Dallas, je discutais avec le directeur de la bibliothèque et qui me disait, évidemment, dans l'idéal, je préférais un autre candidat ou une autre candidate républicaine. Mais s'il faut choisir et si c'est le seul qu'on a, c'est lui qu'on va soutenir. Donc, ce qui est devenu impensable et ce qui est très, très difficile, c'est de se dire évangélique et de voter, en fait, pour le candidat démocrate. L'un des éléments intéressants qu'on a vu dans la dernière présidentielle, c'est la constitution d'un groupe, d'un front d'évangéliques progressistes qui s'appelait Evangelicals for Biden, évangéliques pour Biden, mais qui disait, sur la question de l'avortement, nous n'avons pas bougé. Nous sommes toujours opposés à l'avortement, mais nous pensons que ça ne doit pas être la priorité dans le choix d'un candidat.
Et juste pour encore une fois ajouter un truc sur Trump, c'est tout le narratif mythique qu'on a fait autour de Trump comme étant élu de Dieu, choisi de Dieu, depuis la sortie du bouquin de Lance Wallnau en 2016, hein, God's Chaos Candidate, qui finalement met de l'avant cette idée que Trump, malgré le fait que c'est un être imparfait, correspond parfaitement au genre de paradigme qu'on retrouve dans la Bible, dans les textes bibliques, d'individus imparfaits que Dieu appelle à, comme Messie, hein, dans le sens, comme oint de Dieu, choisi de Dieu, Cyrus et ainsi de suite. Des êtres imparfaits que Dieu a choisis pour accomplir sa volonté. Et Trump, c'est l'homme fort de la situation. Ce que Philippe disait, là, on a besoin d'un homme fort, un homme qui se tient debout. Et parmi les commentaires, et je vais terminer là-dessus, à la National Religious Broadcasters Association, certains des commentaires qu'ils émettaient, c'est que Trump nous comprend, il parle notre langage.
C'est vraiment intéressant parce que là, tous les deux, vous l'avez évoqué, ce nœud de mobilisation assez historique, j'ai l'impression, de la question de l'avortement pour cette coalition de la droite chrétienne. Maintenant que depuis l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, on pourrait dire que il y a eu une certaine mise en œuvre là, de la transformation sociale attendue par cette coalition. J'ai l'impression que depuis quelque temps, la focale est en train de changer maintenant, une fois que maintenant que cette annulation de l'arrêt a été validée par la Cour suprême américaine. Il y a une certaine focale sur les questions reliées à la transidentité. On a vu hein, depuis plusieurs années des lois transphobes adoptées dans plusieurs États américains. À quel point est-ce que la droite chrétienne, puis notamment les groupes évangéliques, se mobilisent sur ces questions, puis viennent contribuer là, vraiment à l'élaboration de ces lois? Puis est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, là, le cœur de mobilisation après les droits sur l'avortement viennent se focaliser maintenant sur la diversité de genre et sexuelle aux États-Unis notamment.
Je vais intervenir là-dessus parce que, alors, la réponse très rapidement, c'est oui, évidemment. L'autre réponse, c'est pas seulement. Il y a d'autres causes aussi qui sont importantes à souligner. C'est notamment la mobilisation contre la critical race theory, la théorie critique relative au racisme systémique. Un autre élément, c'est les mobilisations à l'encontre de toute forme d'enseignement de pédagogie relative au réchauffement climatique. Pourquoi c'est important de le mentionner? Parce que, alors, d'une part, en fait, le mode de mobilisation qui consiste en un activisme juridique, il n'est pas nouveau. On le voit déjà au début du XXe siècle avec la cause, en fait, la lutte contre l'enseignement de la théorie de l'évolution. Donc, on a déjà, en fait, un activisme, on va dire, ultra-conservateur, de nouveau, hein, par des lobbies, qui tentent de faire passer des lois dans des États. De manière à empêcher l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles. C'est exactement le même dispositif qui a été utilisé pour tenter d'affaiblir l'arrêt Roe versus Wade, qui a été à la fois grignoté progressivement et simultanément, en fait, qui a fait l'objet, on va dire, d'une opération par le haut, par la Cour suprême. Et puis, d'ailleurs, c'est ces opérations par le bas qui ont permis de remonter jusqu'à la Cour suprême, hein, soyons clairs. Il fallait bien, en fait, donner des biscuits à ces juges fédéraux, juges de la Cour suprême, pardon. Et puis, sur la question transidentité, maintenant plus spécifiquement, évidemment, je veux dire, là, ce qui est attaqué par les personnes qui se défendent, c'est-à-dire ces évangéliques qui ont l'impression en fait qu'on les spolie, ou ces catholiques conservateurs, hein, qui ont l'impression qu'on les spolie en fait de leurs droits, ils ont l'impression d'être spoliés de leur liberté religieuse, de dire que un couple, quoi, une famille, c'est un homme, une femme avec des enfants, que la norme est hétérosexuelle et qu'on ne peut pas considérer le mariage à l'extérieur de cette idée-là. Mais c'est pas pour rien que vous avez aussi la contestation de la théorie critique de la race, du racisme systémique. C'est parce qu'en fait, c'est bien une certaine vision de la famille nucléaire bourgeoise, c'est bien une certaine vision, en fait, de la blanchité du citoyen par défaut américain. Et je dirais, c'est plus tant la question protestante, c'est la question chrétienne, parce que vous avez ce qu'on appelle, depuis le début des années 90, et qui n'est pas une invention de Moncru, mais qui est le terme qui a été utilisé par les acteurs qui ont réalisé cette opération, vous avez ce qu'on appelle l'œcuménisme des tranchées entre catholiques conservateurs et évangéliques, c'est-à-dire l'extension de cette alliance politique à la question en fait des guerres culturelles qui est actée, et on voit très bien où se fait la confluence, et sur un ensemble en fait de thématiques comme celle que je viens de décrire.
Et c'est excellent ce que Philippe dit, hein. Mais c'est aussi, ça résonne beaucoup. En fait, ce qu'on voit, c'est nouveau, oui, mais jusqu'à un certain point, on l'a déjà vu aussi. Et je m'explique. Dans les années 70, on a, bon, la loi sur l'avortement. Et on dit tous, on a tous souvent l'impression que c'est vraiment la question de l'avortement qui a suscité la mise en œuvre de la droite chrétienne. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas nécessairement strictement la question de l'avortement, comme on sait, et Philippe le sait très bien, il a étudié ça. C'est vraiment une question autour de la ségrégation raciale qui a vraiment déclenché cette question de majorité morale, parce que on menaçait à l'époque de révoquer le statut d'exemption de taxes à la Bob Jones University dans les années 70, en fait, plus particulièrement en 1978. On avait déjà averti en 1975 que ça allait se produire avant l'élection de Jimmy Carter. Carter est élu en 76. En 77, il devient président en janvier, assermenté. Et en 78, il y a ce décret qui tombe avec Jerome Kurtz, le nouveau responsable de l'Agence du revenu interne. Et il y a une réaction, hein, de la part des chrétiens, parce que là, maintenant, les lois de la déségrégation devaient s'appliquer à des institutions privées. Non seulement juste à des institutions publiques, mais à des institutions privées. Bob Jones University, institution privée. Et là, on a l'impression que le gouvernement se mêle des trucs de l'Église. On n'est plus dans le principe, dans leur perspective, d'une séparation Église-État. Là, l'État se mêle des choses de l'Église. Et c'est ça qui fait réagir, initialement, la question de « il faut monter aux barricades », parce que celui pour lequel on a voté, Jimmy Carter, l'évangélique, ne fait rien. Il ne fait rien et semble soutenir cette perspective. Et ils vont se rallier derrière Ronald Reagan. On va avoir la constitution de la majorité morale en 1979. Ils vont faire élire Reagan à deux reprises et ainsi de suite. Bon. Mais, et c'est sûr que la question de l'avortement est rentrée aussi en même temps à ce moment-là. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est la question raciale. C'est-à-dire qu'on a la question avortement, qu'on vient de voir récemment, qui vient d'être renversée. Critical race theory qu'on voit, c'est un peu le prolongement qu'on voit de toute la question de la déségrégation, la question avec le problème qu'on a sur le plan racial. Et la question de transphobie ou des droits des personnes LGBTQ+, Dans les années 70, on la voit, cette question-là. On est moins sur une question de transgenre, mais on est quand même aux prises avec une opposition contre les droits des personnes gays, avec Anita Bryant en 1977, qui est une chanteuse populaire qui commence une espèce de mouvement de protestation contre les personnes qui s'identifient comme étant des personnes gays, qui enseignent dans les écoles publiques. Et il y a un mouvement pour essayer de contrecarrer ça. Et Jerry Falwell, senior à l'époque, se joint pour appuyer Anita Bryant. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans les années 70, on a Roe versus Wade, oui. On a toutes ces questions-là de ségrégation, déjà encore dans les années 70, ces questions raciales. Et on a la question aussi qu'on a des problèmes avec les droits des personnes gays. Mais là, ce qu'on voit récemment, c'est l'amplification ou le retour de ces éléments-là qui sont un peu, je dirais, on dirait en anglais, rebranded. Parce que là, on a eu la victoire de Roe versus Wade. Mais là, on s'attaque à d'autres choses qui causaient problème déjà dans les années 70 autour des mêmes enjeux, mais en fait, on les appelle un peu différemment. Mais c'est les mêmes préoccupations d'un certain sens. À mon sens, on voit une espèce d'écho d'un
Absolument.
retour de ces problématiques.
J'aurais une dernière question pour vous deux. Donc dans le fond, on l'avait évoqué avec Philippe tantôt dans le contexte européen, puis suisse plus particulièrement, une espèce d'importation, on va dire, des façons de faire des groupements évangéliques, on va dire, de la coalition de droite chrétienne, même d'une manière plus générale. Est-ce qu'on peut imaginer, puis là, je serais curieux d'entendre aussi André là-dessus, est-ce qu'il existe au Canada des similitudes entre la droite chrétienne aux États-Unis, puis celle qui est présente ici. Et on sait que des élections fédérales vont pointer le bout de leur nez bientôt au Canada aussi. À quel point est-ce qu'on peut imaginer que cette coalition droite chrétienne puisse avoir un impact significatif aussi sur transformation sociale et politique, sur en tout cas une conquête du pouvoir politique au Canada, selon le même modèle qu'on a pu voir aux
Ben,
États-Unis?
c'est certain qu'il y a une droite chrétienne au Canada. Elle n'est pas aussi, elle n'a pas le même impact parce que, encore une fois, en termes de proportion sur le plan des nombres, on a beaucoup moins de gens. C'est-à-dire que c'est un peu difficile de comparer dans le sens sur le plan de l'impact. Mais les idées sont les mêmes et le même type de coalition existe. Et les acteurs sont à peu près les mêmes au sens des idées, parce qu'ils font partie déjà de réseaux, sont déjà très présents aux États-Unis, mais qui s'étendent chez nous. J'ai eu quelques occasions. Ben, premièrement, ça c'est très très, ça a été très très bien documenté déjà sous l'ère de Harper, exactement. Marcy McDonald a écrit un bouquin phénoménal autour des années 2010-2011 qui s'appelle The Armageddon Factor. Et elle décortique, elle identifie tous les acteurs qu'on identifie comme étant de la droite chrétienne, tout leur réseau, que ce soit des réseaux par église, médiatiques. C'est phénoménal le travail qu'elle a fait. C'est une journaliste. Elle a eu beaucoup de problèmes suite à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient qu'elle exagérait, puis tout ça, puis qu'il n'y avait pas d'exagération du tout, là, parce que les acteurs qu'elle identifie, certains des acteurs qu'elle identifie dans son bouquin à l'époque sont encore actifs aujourd'hui. J'ai eu des occasions récemment au Nouveau-Brunswick, une des personnes mentionnées dans son bouquin et une des personnes qui a été beaucoup active au Canada sur le plan de la droite chrétienne, c'est une dame du nom de Fatine Grisashi. Et Fatine, elle est directement en contact avec les prophètes, Cindy Jacobs, les gens comme Lance Wallnau, des gens comme Che Anne, qui sont les gens les plus impliqués du côté charismatique sur le plan de la politique américaine, dans le sens de vouloir pousser justement cette idée de dominionnisme et des sept montagnes de la culture. Et elle chante, et elle tente dans son petit patelin d'influencer beaucoup ce qui se passe en politique sur le plan de la politique au Nouveau-Brunswick avec le candidat conservateur à cet endroit. Et elle tente elle-même de proposer des gens qui font partie de sa propre communauté de se présenter dans des comtés pour être en mesure de gagner du terrain, parce qu'elle elle partage complètement ces idées-là. Et vous pouvez vous promener sur sa chaîne YouTube. Je veux dire, on a, c'est le même langage, c'est la même chose. La différence, c'est le fait démographique. Il n'y a pas le même poids. Il y a des endroits au Canada où ce que les manifestations de la droite chrétienne sont plus présentes. On pense à l'Alberta. L'Alberta, c'est assez. Quelqu'un appelait l'Alberta God's country, hein, God's province, quasiment. Et il y a des endroits, il y a des endroits stratégiques aussi dans les maritimes où ce que les gens adhèrent à certaines de ces perspectives. Oui, il y a une droite chrétienne. Est-ce que on est à l'aube de voir une loi anti-avortement au Canada? Premièrement, il n'y a pas de loi très claire. Hein? La question de l'avortement au Canada, c'est pas vraiment bien défini sur le plan juridique, là. Et est-ce qu'il va y avoir quelque chose de très défini sur cette question? Je suis pas convaincu, même si ce serait Poilievre qui gagnerait, parce que même à l'époque de Harper disait à ces chrétiens les plus conservateurs de se calmer, que c'était du suicide politique d'aller dans la direction de mettre de l'avant une loi anti-avortement, que ce serait la dissolution complète de son parti. Et on sait que le parti conservateur est divisé. Vous avez des conservateurs qui sont des conservateurs classiques sur le plan économique et ainsi de suite, mais vous avez aussi les résiduels du Reform Party, hein, de Preston Manning à l'époque, qui sont beaucoup plus idéologiques. Et le Parti conservateur en ce moment est pris avec ces deux genres d'ailes qui sont en tension l'une envers l'autre. Hein. Et même les gens au Nouveau-Brunswick, là, quand ils voient quelqu'un, même les conservateurs dans le parti, qui voient quelqu'un comme Grisacci se pointer, veulent se dissocier de leur propre parti. Voyez-vous, ça veut dire que la partie n'est pas gagnée pour la droite chrétienne au Canada, mais il faut être conscient qu'il y en a une.
Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du Canada, mais j'aimerais juste raconter une anecdote. C'est que en 2012-2013, j'ai suivi des séminaires théocratiques enseignés à Genève avec un acteur de la droite chrétienne américaine qui s'appelle Lou Engle, qui a lancé une organisation qui s'appelle The Call. Et parmi les personnes qui ont été invitées à venir témoigner de leur présence au Parlement et de leur travail avec les hommes politiques, hommes et femmes politiques, il y avait Faitin Grasecki, qui est venue du Canada nous expliquer en fait son lobbying dominioniste à Ottawa. Ouais. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, c'est transnational, ces gens circulent, et ces schèmes en fait de mobilisation se développent. Et vous voyez qu'en Suisse, ça prend un petit peu parce que c'est un pays très démocratique et donc qui donne une liberté assez grande à des toutes petites formations. Ça prend pas vraiment en France, mais quand même, ces courants circulent. Et au Brésil, vous voyez ce que ça donne.
Et puis même en Argentine, non?
En Argentine, il faudrait maintenant s'intéresser de très près au réseau avec Milei. Et puis voilà, moi, je me suis plutôt intéressé à ce qui se passait avec Bolsonaro. Et j'ai des amis au Chili qui me font remonter des informations relatives aussi là, à la constitution d'une droite chrétienne. Ce qui est très intéressant, et j'aimerais juste, peut-être pour ma part, finir là-dessus, c'est que récemment, j'étais dans le jury d'une thèse consacrée au rapport entre évangélique et catholique du renouveau charismatique au Brésil sur la question politique. Et ce docteur, à présent docteur maintenant en infocom, qui s'appelle Kelber Pereira, Gonçalves, disait, à très juste titre, il montrait comment la constitution de cette droite chrétienne s'est d'abord opérée avec des entrepreneurs du religieux qui voulaient des concessions radio et TV, qui sont entrés dans les parlements pour maintenir leurs concessions. Comment, une fois qu'ils étaient au Parlement, ils ont noué des alliances politiques pour avantager leurs églises ou leurs ministères et pour s'aligner sur des valeurs. Et donc, comment la question, en fait, politique a émergé au travers de la question de l'audiovisuel et de son maintien. Si aujourd'hui, moi, je suis très attentif aujourd'hui à ce qui se passe en France, avec l'emprise de Bolloré, en fait, sur le champ audiovisuel et médiatique, et sur le fait que Bolloré est en train de donner une place très importante à des acteurs évangéliques. La révolution ne viendra pas des évangéliques en France, hein, rassurez-vous, c'est un peu plus d'1% de la population, guère plus. Mais c'est surtout, c'est l'alliance avec les catholiques conservateurs français qui commence à vraiment questionner. Et moi, j'ai l'impression qu'en France, on est à l'horizon, quoi, à l'aube d'une reconfiguration importante. Et il vaudrait la peine de, cette fois, de mettre les lunettes sur la question du religieux. Alors, il y a quelques journalistes qui le font. À Libération, au Monde, qui commence à s'interroger, mener des enquêtes sur ces réseaux opaques de Bolloré autour des évangéliques et de certains réseaux catholiques conservateurs. Mais voilà, moi je dirais, soyons attentifs, ne discréditons pas trop rapidement la question, la lecture, en fait, on va dire, théologico-politique, sous prétexte qu'on pense que tout ça c'est du faribole et que ces gens-là pensent des choses, croient des choses qui sont aberrantes.
Ça boucle bien le tour d'horizon qu'on a fait de la droite, de cette coalition de la droite chrétienne, dans le fond. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci Loïc.
Merci pour l'invitation. Merci.
Ce nouvel épisode de Religio, un balado du Sodrus. Je remercie encore une fois mes deux invités d'aujourd'hui, Philippe Gonzalez et André Gagné, d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du balado Religio, un balado du Sodrus.